Et Pierre Boudias. RFI Matin, suite et fin, le journal dans 18 minutes et plus de 30 frappes cette nuit selon l'agence officielle de presse libanaise, 30 frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth. Le récit à suivre de Paul Khalife dans la capitale libanaise. À suivre d'ici là notamment notre tour du monde des correspondants, petit tour des particularismes du français dans les différentes communautés qui le parlent autour du monde et tout de suite les sports. Avec vous, Victor Missistrano, à la une, cette question. Qui sera le premier champion du monde de Maracana? Grande finale ce soir en Côte d'Ivoire.
Le pays hôte et le Bénin vont se disputer la suprématie internationale dans cette discipline de foot à 6 contre 6 et sans gardien de but. Affiche 100% africaine donc. En demi, les Guépards du Bénin ont pris le meilleur sur le Togo voisin. Match nul de partout à la fin du temps réglementaire. Et les Béninois se sont donc imposés au tir au but. De leur côté, les Ivoiriens ont déroulé face au Canada 6-0. Les éléphants sont montés en puissance tout au long du tournoi, se réjouit leur sélectionneur Sylvain Yobo.
Nous nous sommes remis en cause, mes poulains me l'ont démontré. Il y a eu 6-0, il y a eu 4-1, aujourd'hui c'est encore 6-0. Je suis vraiment heureux, nous n'avons pas encore fini. Le Bénin joue bien et le Bénin est constant. Nous prenons vraiment le Bénin au sérieux. Mais écoutez, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous avons notre façon de jouer, nous avons notre maîtrise et je pense qu'on ne va pas faillir.
Sylvain Yobo au micro de Molamine Sissavané.
Direction le Cameroun à présent, les coureurs cyclistes du Grand Prix Chantal Biya ont mis pied à terre hier à Yaoundé.
Et Wesley Van Dijk remporte l'épreuve, il était largement en tête avant cette dernière étape. Le Belge devance le vainqueur de l'édition précédente, l'Algérien Yassine Hamza. Notre correspondant Joël Wadem dresse le bilan de ces 5 jours de course.
C'est une fin en apothéose pour Wesley Van Dijk. Après 80 courses et 33 victoires, c'est avec un dernier sacre au Grand Prix Chantal Biya que le Belge de 30 ans a décidé de mettre un terme à sa riche carrière.
C'est incroyable. J'ai roulé en jaune depuis que j'ai 14 ou 15 ans. De finir ma carrière avec un maillot jaune, je n'ai pas de mots pour ça.
L'Algérien Yassine Hamza, vainqueur de l'édition 2023, après avoir arboré à l'entame le maillot jaune, a perdu la précieuse tunique après des problèmes mécaniques à la deuxième étape. Son directeur sportif, Khalil Tamarante, est plutôt fair-play.
Bon, aujourd'hui, Yassine il est déçu parce qu'il a fait 2, je crois, à l'arrivée. On a remporté 3 étapes sur 5, c'est déjà pas mal. En plus, on a endossé 3 maillots. On a le maillot vert, maillot grimpeur, et le maillot de U23, meilleur jeune. On a conservé le classement par équipe.
La formation camerounaise SNH Vélo Club, classée 3e équipe sur 11, aura été la grande déception de cette compétition. Avant de se séparer, l'ensemble des équipes vont participer ce dimanche au Grand Prix de Yaoundé, une compétition également inscrite au calendrier de l'Union Cycliste Internationale. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et puis Victor, on termine par du football. Le championnat reprend en République démocratique du Congo. Première journée ce week-end.
Et le tout-puissant Mazembe, tenant du titre, a concédé le nul hier pour son entrée. Un partout à domicile face à l'AS Malolé, club promu. De son côté, l'AS Vita Club fait ses débuts aujourd'hui. Le club basé à Kinshasa qui va tenter de revenir au premier plan après un dernier exercice décevant. Ce sera avec un nouvel entraîneur, Youssouf Dabo, le technicien sénégalais qui vient de remplacer le démissionnaire Abdeslam Ouadou. Et Youssouf Dabo se sent déjà chez lui.
Depuis que je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de personnes. Et voilà, j'ai eu de bons mots avec eux. Ils m'ont souhaité la bienvenue, donc je me sens chez moi. C'est un club exigeant parce que c'est des gens passionnés. Ces gens-là, ils sont passionnés par leur club, par le football. Donc c'est normal qu'ils soient exigeants. Mais ça ne doit pas créer de la peur chez nous, ça doit être une motivation parce qu'on joue aussi au football pour ce genre de situation. À nous d'être costauds dans nos têtes, même si on a des moments difficiles, il faut qu'on soit costauds dans nos têtes. On fera notre mieux pour apporter notre contribution.
Youssouf Dabo avec Olga Massangou, premier match ce dimanche, Julien, pour l'AS Vita Club et son nouvel entraîneur. C'est à 14h30, temps universel contre Bukavu.
Victor Missistrano, merci, bon dimanche et vous avez l'habitude de la retrouver tous les week-ends. Lucie Bouteloup est encore avec nous pour continuer d'explorer les expressions liées au sport.
Les mots des JO, Lucie Bouteloup.
S'il y a bien un sport dans lequel les athlètes tricolores se distinguent pendant les Jeux Olympiques, c'est l'escrime. La preuve, au total depuis la création des Jeux modernes, la France a remporté 130 médailles dans la discipline, dont 7 pour les Jeux de Paris, avec un titre olympique. Mais plus que de croiser le fer, ce que les Français aiment par-dessus tout, c'est faire mouche en usant d'expressions aussi imagées qu'inventives, y compris quand elles sont inspirées des Jeux d'épée.
Seulement Jean-François Copé et François Fillon ont refusé de croiser le fer.
C'est un coup d'épée dans l'eau.
Nanga est en train de jouer un rôle, celui de la personne qui est appelée à porter l'estocade à la démocratie pour discréditer les élections prochaines.
Il était volontaire pour croiser le fer avec Éric Zemmour.
Un coup d'épée dans l'eau, la majorité refuse de modifier l'agenda.
La tombée imminente de la nuit rendait difficile la progression au sol. Il fallait agir vite pour porter l'estocade.
Le président a répondu du tac au tac.
Pour les non-initiés, l'expression du tac au tac est sans doute celle dont l'origine semble la plus mystérieuse. C'est vrai, pourquoi cette répétition du mot tac? Eh bien, parce qu'elle évoque à la fois le bruit sec que font les fers quand ils s'entrecroisent, mais aussi une certaine rapidité. Et en escrime, quand on riposte du tac au tac, c'est qu'on répond à un assaut immédiatement. Au sens figuré, l'assaut est aussi verbal. Et quand on répond à quelqu'un du tac au tac, c'est qu'on le fait avec une certaine vivacité, de la répartie, voire de manière cinglante, c'est-à-dire de façon à blesser l'autre. Comme lorsque l'on s'adresse à lui avec un ton tranchant. Tranchant, comme l'est aussi la lame du sabre. D'ailleurs, les coups portés peuvent être si vifs qu'à la fin, on finit par porter l'estocade, c'est-à-dire donner le coup décisif, celui qui va achever son adversaire, aussi bien au combat que dans une joute verbale, par exemple, quand l'un des orateurs prend définitivement le dessus sur un autre. L'estocade, donc. Cette fois, le mot vient de l'italien stoccata, et il désigne, au XVIIe siècle, la blessure faite avec la pointe de l'épée. Mais heureusement, tous les coups ne sont pas fatals. C'est le cas, par exemple, du coup d'épée dans l'eau. Celui-là, on s'en doute, ne sert à rien, c'est un coup perdu. Dans ce cas, il y a de fortes chances, si on ne s'escrime pas à reprendre le dessus, qu'on finisse par essuyer un revers. Mais ça, c'est une autre histoire.
Les mots des JO, une chronique avec le soutien des ministères de la Culture, de l'Europe et des Affaires étrangères et des Sports.
Lucie Bouteloup, françaisfacile.rfi.fr, c'est l'adresse où vous la retrouvez en version retranscrite. Une première dose symboliquement administrée à Goma, un déploiement à venir dans le sud de Kivu. La campagne de vaccination contre le Mpox a commencé hier en République démocratique du Congo, pays le plus touché du monde, avec à ce jour plus de 30 000 cas suspects et plus de 980 décès. La propagation est préoccupante, notamment dans les régions frappées par les conflits dans l'Est, avec les déplacements de population. La vaccination commence donc, mais pour l'instant, elle ne sera pas massive. La RDC n'a encore reçu que 265 000 doses, alors que les autorités chiffrent les besoins en millions. On fait le point ce matin avec notre grand invité Afrique de ce dimanche, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, l'Africa CDC, Jean Kaseya, au micro de Pierre-Olivier.
Bonjour docteur Jean Kaseya.
Bonjour.
La campagne de vaccination contre le Mpox commence en RDC. Quelles sont les régions concernées en priorité?
Nous avons par exemple les chutes Kivu, l'Équateur, nous avons aussi les Sankuru, mais nous voulons attirer aussi l'attention sur le fait qu'à Kinshasa, on a vu un nombre important de cas et donc Kinshasa sera aussi intéressé.
Quel est le public qui va être ciblé en priorité?
En priorité, ce sont les personnes infectées, ce sont les personnes contacts de ces personnes et les contacts de deuxième degré. Pour qu'on coupe la chaîne de transmission, nous avons aussi les personnes vulnérables, surtout les personnes avec immunité atteinte, et on ajouterait à cela les personnes, des personnes déplacées. Par exemple, rien qu'au chute qui vous avez plus de 1 million de personnes qui sont des déplacés internes, et on a vu des cas qui se sont déclarés là-bas. Donc voilà la priorité actuellement.
Alors, dans le sud de Kivu, la campagne de vaccination devrait débuter lundi. Qu'est-ce qui rend difficile l'approvisionnement dans certaines régions de RDC?
Vous savez, la RDC, c'est un pays très vaste et c'est un pays où les infrastructures routières. Et c'est un véritable casse-tête. Ajouté à cela, à l'est du pays, il y a l'insécurité. Donc, c'est autant de facteurs qui font qu'il y a certaines activités de préparation qui ont pris du retard et on espère que ça va se rattraper.
Jean Casseillat, de combien de doses de vaccins contre le Mpox la RDC dispose-t-elle pour l'instant ?
Nous avons actuellement, la RDC a reçu 200 000 doses venant de l'Union européenne avec Africa CDC, le partenariat qu'on a noué. En plus de cela, la RDC a reçu 65 000 doses, dont 50 000 venant du gouvernement américain et 15 000 venant des Gavi. Donc, c'est sur ces 265 000 doses que la campagne va commencer. Et nous savons qu'il y a des promesses de nouveaux vaccins dans la France. Et je viens de signer un document tripartite, la France, Africa, CDC et l'Union européenne pour la fourniture de ces vaccins. Il y a l'Allemagne, mais aussi il y a le Japon avec 3 millions de doses. Donc nous pensons que cette campagne qui va commencer va ouvrir les portes très grandes. On n'oublie pas les 1 million de doses promises par le gouvernement américain.
Jean Casseillat, vous appelez la population à se faire vacciner dès que possible, sans crainte.
Ces vaccins a déjà été utilisé en Europe, aux États-Unis. La preuve est là, la population rwandaise s'est fait vacciner, elle n'est pas morte. Et au contraire, on voit une courbe descendante au Rwanda. Donc, nous appelons toute la population africaine concernée à se faire vacciner. Nous sommes là, notre mandat est de garder la santé des Africains et de notre continent. Et Africa CDC fera de son mieux en travaillant ensemble avec le gouvernement et avec les partenaires pour sauvegarder ça.
Merci beaucoup, Dr Jean Casseillat.
Merci à vous.
Jean Casseillat, directeur de l'Africa CDC, du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. L'entretien signé Pierre-Olivier que vous retrouvez sur RFI.fr.
RFI Matin.
Et on vous en a parlé tout le week-end, le sommet de la francophonie s'est refermé hier en France. Un rendez-vous aux accents diplomatiques sur fond de crise mondiale, mais aussi l'occasion de faire un état des lieux de la francophonie. 321 millions de locuteurs sur les 5 continents et une langue qui s'étoffe et se transforme. Partout où elle est parlée, on peut presque dire qu'il y a autant de façons de parler le français que de communautés qui le parlent. Trois exemples ce matin dans notre tour du monde des correspondants. Cap sur le Québec pour commencer. La deuxième province la plus peuplée du Canada et c'est plus de 7,5 millions de francophones avec un accent reconnaissable entre tous et des expression bien à eux. Pascal Guéricola.
Ici, on tombe en amour ou même on peut avoir le kick sur quelqu'un. Mais avant cette étape, par le passé, les Québécois aimaient bien se chanter la pomme. Autrement dit, se séduire. Une expression un peu vieillotte, mais qui fait toujours son effet. La rupture, elle, est moins fleurie. Tout bonnement, le couple casse. Pire, on peut se faire crisser là, donc abandonner ou même domper par son ou sa partenaire. Pas très gai en sachant que la dompe, c'est aussi la décharge publique. Cependant, quoi de mieux que la colère pour libérer les expressions ? Cela commence modestement, en étant choqué. Puis l'émotion prend de l'ampleur. La personne est en maudit, en motadie même. Elle pogne les nerfs, se sent en beau fusil, pire, en beau joual-vert. Et là, étape suprême, les mots liés au vocabulaire d'église s'enchaînent. On est en crisse, en ciboire, en calice, en tabarnak. Une façon pour les Québécois de se libérer de la religion en transformant ces objets sacrés en injures.
Pascal Guéricola au Québec, merci beaucoup. Le Québécois et ses accents nord-américains, la langue française, se métamorphose aussi sur le continent africain, en Côte d'Ivoire. Aussi, les expressions typiques fleurissent et s'exportent. On a même vu des mots de l'argot nouchi rentrer dans les dictionnaires français. Inventaire de quelques expressions 100% ivoiriennes avec Abdoulaziz Diallo.
En Côte d'Ivoire, quand Cupidon s'en mêle, on dit souvent « je suis tombé dedans » pour exprimer un coup de foudre. foudre. Et si la passion est vraiment forte, on n'hésitera pas à affirmer « je suis fan », un peu comme pour une célébrité. Mais cette fois-ci, la star, c'est l'être aimé. Flirter tout en finesse. Ici, le flirt se fait avec délicatesse. Plutôt que de parler de flirter, on dira faire des avances, draguer doucement ou faire les yeux doux. Quand ça ne va plus, si la relation se termine, tu entendras alors « on a cassé » ou « on n'est plus ensemble ». Et si c'est douloureux, on parle de goumin, ce fameux cœur brisé. L'expression « on a coupé igname » marque une rupture définitive. Après une dispute, on dit « on a fait discours ». Si quelqu'un est très énervé, il dira « mon cœur est chaud » ou « mal gâté ». Et si l'ambiance est à la rigolade, tu entendras « tu m'as tué ». Pas de panique, personne n'est mort. C'est simplement pour dire qu'il t'a fait rire aux larmes. Enfin, quand on est prêt à faire la fête, c'est le moment d'aller chauffer.
Abdelaziz Diallo à Abidjan, merci beaucoup. Et puis, dernière étape en Belgique, l'un des cœurs battants de la francophonie européenne, avec bien sûr la France, mais aussi la Suisse et le Luxembourg. Il faut même dire que le royaume des Francs est né en Belgique et qu'il n'y a d'ailleurs pas qu'une seule langue française en Belgique. La plus connue est le wallon, mais il y a aussi le bruxellois, le picard, le gommais et même le champenois. Chacune a ses particularismes, Pierre Benazet.
Les quatre langues parlées en Belgique francophone donnent un florilège d'expressions qui sont même pas communes à tous les Belges. D'abord, on se rencontre peut-être à une guindaille, c'est la fête. Et puis, en Wallonie, on tombe amoureux, c'est être bleu de quelqu'un. Alors qu'à Bruxelles, c'est avoir une bountieu pour quelqu'un. Si ça va plus loin, on va se donner une baise. Ça, c'est juste un bisou, rien à voir avec des ébats conjugaux. Ça impliquerait la tiche du monsieur, c'est-à-dire son zizi. Quelquefois, ça débouche sur un mariage devant le bourgmestre à la maison communale. Mais malheureusement, ça finit pas toujours bien. Si les deux ont une brette, c'est-à-dire s'ils se disputent, ils vont être en rote, de très mauvaise humeur. Alors, on se divorce et chacun tire son plan pour jeter l'autre dehors de sa tête.
Pierre Benazet à Bruxelles pour RFI et notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez comme chaque dimanche sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et c'est ainsi qu'RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures passées ensemble. Vous restez avec nous sur RFI, l'information continue. On continue notamment de suivre l'élection présidentielle en Tunisie et la situation au Liban. Notre direct est également à retrouver sur notre site. Et demain, ne manquez pas l'édition spéciale d'RFI Matin à l'occasion du premier anniversaire des attaques terroristes du Hamas en Israël. Le 7 octobre 2023, ce sera avec Arnaud Pontus. Très bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde. Très bon dimanche.
L'Agence universitaire de la francophonie organise du 14 au 18 octobre à Toulouse la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Au programme, ateliers, conférences à suivre en présentiel ou en ligne pour explorer le rôle de la diplomatie scientifique francophone face aux défis de l'avenir. Plus d'informations sur auf.org ou sur les réseaux sociaux de l'AUF. En partenariat avec France Média Monde.